Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Le 14 décembre, l'Église catholique fête Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église. Ce grand mystique espagnol n'est peut-être pas très connu, c'est pourquoi nous allons nous pencher aujourd'hui sur sa vie avec mon invité de ce jour, Anne-Marie Aitze. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Vous avez choisi une œuvre très particulière qui, à mon avis, honore l'éclectisme de cette émission. En effet, si l'on peut trouver dans l'histoire de l'art des portraits de Saint Jean de la Croix, seul, ou dans de saintes conversations, c'est-à-dire des groupes de saints personnages qui n'ont pas vécu à la même époque, vous avez préféré, Anne-Marie Aitze, nous proposer ce que l'on appelle le Christ de Saint Jean de la Croix, réinterprété par Salvador Dali, dans un raccourci improbable. Alors, chers auditeurs, si vous voulez écouter cette émission en regardant l'œuvre dont nous allons parler, vous tapez Dali, Saint Jean de la Croix, et vous trouverez sans problème ce Christ surprenant que nous allons décrypter avec mon invité. Salvador Dali a peint ce tableau en 1951. Il est exposé à Glasgow, en Écosse. On connaît Dali, ce peintre catalan fantasque, certes, mais tellement talentueux et représentant du courant surréaliste. Il naît en 1904 à Figueras, en Espagne, et il meurt en 1989, au même endroit. Alors Dali s'inspira pour ce tableau d'un dessin mystique de Saint Jean de la Croix, réalisé par Saint Jean de la Croix lui-même en 1575 et conservé au monastère de l'Incarnation d'Avila, d'après une de ses visions. Alors, tout d'abord, Anne-Marie, qui était Jean de la Croix?
Alors, Jean de la Croix s'appelait en fait Juan de Yepes. Il est né le 24 juin 1542 en Vieille-Castille, à Fontiveras. Et il est mort en 1591 à Úbeda, du côté de Ségovie, je crois. Donc, il fait partie de la deuxième partie du XVIe siècle. Et c'est le siècle d'or espagnol, oui. Du moins la fin du siècle d'or espagnol, le règne de Philippe II, très, très catholique, et aussi toutes les sommités culturelles liées à ce siècle, quoi, Cervantes, Tirso de Molina. Voilà. Il a été béatifié en 1726, donc au XVIIIe siècle, et déclaré docteur mystique de l'Église en 1926. Alors, c'est un prêtre carme, réformateur et créateur de l'ordre des Carmes Deschaux, en collaboration avec Thérèse d'Avila.
Oui.
Non, ils sont un peu indissociables, du moins on les cite toujours plus ou moins ensemble. Mais il a sa propre personnalité, hein, Jean de la Croix. Donc, son père était noble, mais il a perdu la noblesse parce qu'il s'était marié avec une roturière d'origine juive convertie, Catalina, qui était tisserande. Cet homme est mort très jeune, laissant Jean de la Croix, il était tout enfant, hein, dont la famille a connu une grande misère.
Oui, ils pendant longtemps.
Pendant longtemps, ils étaient trois enfants, dont un est mort de famine, pratiquement. Il avait un frère aîné qui s'appelait Francisco. Et donc, ils ont connu une grande misère. Et ensuite, ils se sont installés à Medina del Campo. Ils essayaient de vivre, je pense, du métier de la mère, hein. Oui. Alors, heureusement, ils ont trouvé un protecteur qui s'est intéressé à cet enfant, qui avait certainement des qualités, qui l'a fait aller à l'école des orphelins, puis au collège de la doctrine chrétienne. Donc, ce qui fait qu'il a acquis quand même une solide culture de base. Hein. Il a appris le latin, il a appris la rhétorique, la grammaire, oui. Voilà, lire et écrire, et de façon quand même assez... Donc, en 1563, il entre chez les frères Carmes de Medina del Campo. Et il se fait appeler Juan de Saint-Mathias. Alors, c'est un moine qui est tout à fait priant, vie ascétique, enfin, à tel point que son supérieur l'envoie à l'université de Salamanque. Et l'université de Salamanque, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était la grande université européenne, qui, je pense, même déclassait presque la Sorbonne.
Oui, donc c'était, et Bologne.
Et voilà, c'était vraiment la grande université. Et là, il va apprendre vraiment les auteurs grecs, saint Augustin, saint Thomas, les auteurs profanes. Il va avoir une culture, la culture de l'époque, une culture encyclopédique. Donc Jean de la Croix, c'était un intellectuel finalement. Oui. Et c'était quelqu'un de très solide dans ses connaissances et dans sa culture. Alors en 1567, il est ordonné prêtre. Et Thérèse d'Avila assiste à sa première messe. Et c'est là que se place la rencontre avec Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila avait donc réformé le Carmel au niveau des femmes et elle cherchait quelqu'un pour l'aider à réformer la branche masculine du Carmel, puisque les frères carmes existaient déjà.
Oui, ils étaient chaussés.
Et donc, elle va proposer cette mission à Saint-Jean-de-la-Croix, à ce prêtre, dont Jean de Saint-Mathias, dont elle apprécie la pureté de l'âme et elle apprécie son caractère. Quoi. Et donc, il va accepter parce que ça va un peu dans son sens. Il n'était pas très satisfait de la situation des carmes qu'il trouvait finalement pas assez austère. Il voulait entrer à la Chartreuse.
Oui, pour un plus grand dépouillement.
Voilà, pour un plus grand dépouillement. Qui va être un des soucis de sa vie, de sa foi. Et là, il répond finalement à Thérèse d'Avila, il accepte. Et c'est avec elle, ils fondent un couvent, le premier couvent, des carmes déchaussées. Ça veut dire qu'ils avaient des sandales aux pieds au lieu d'avoir des chaussures. Donc, ils revenaient à une règle plus austère, un peu la règle primaire du Carmel. De la fondation du Carmel. Et en même temps, donc ils vont partir, ils vont prêcher, ils vont pieds nus dans la neige avec d'autres compagnons, enfin de façon assez austère. Bon, il faudra que Thérèse d'Avila le modère un peu dans toutes ces...
C'était un peu excessif.
Voilà, c'était un peu excessif.
Surtout pour les autres.
Voilà. Et surtout, lui-même dira plus tard que c'était des exigences de bête.
Oui.
Donc, il s'était rendu compte quand même du caractère trop excessif de ces pratiques.
Ce sont des pénitences de bêtes vers lesquelles, comme des bêtes, on se laisse attirer, trompé par le désir et la satisfaction qui en résulte.
Voilà.
C'est ce que disait Saint Jean de la Croix. Donc, il est revenu sur ses décisions premières.
Donc, Thérèse d'Avila le nomme accompagnateur spirituel du Carmel d'Avila.
C'est ça.
Voilà. Et là, il va évidemment conseiller les sœurs et il va être apprécié pour sa douceur, pour sa compréhension, pour tout sa foi lumineuse, tout en vivant toujours une vie austère quand même. Il était retiré. Et c'est à cette époque-là aussi que Thérèse d'Avila commence à écrire des écrits spirituels.
Oui, sous l'influence de
Saint Jean de la Croix. Alors, les choses vont se gâter parce qu'en 1576-1577, les frères carmes, qui supportaient très mal cette réforme, qui sans doute les dérangeait dans leur petit confort, ils ont enlevé Jean de la Croix parce qu'en devenant frère carme, il avait changé de nom. Frère carme des chaussées, il s'était fait appeler Jean de la Croix. Voilà, tout un programme d'ailleurs.
Oui.
Et donc, il est emprisonné à Tolède, dans un couvent des frères Carmes, dans des conditions quand même très dures. On essaye de faire pression sur lui pour qu'il renonce à sa réforme. Il est dans un cachot. On le prive de livres de spiritualité, etc. Et c'est là qu'il va, dans la solitude et le dénouement et un peu l'abandon, qu'il va écrire ses grands textes mystiques. Enfin, c'est des poèmes, en fait. Jean de la Croix, c'est un poème.
Oui,
poète. Et c'est reconnu comme un grand poète lyrique de langue espagnole. Donc, il va écrire La nuit obscure.
La nuit obscure, oui,
voilà, la nuit obscure, qui est très connue. Le cantique spirituel et la montée au Carmel aussi.
Voilà.
Et à partir de ces textes de poésie, par la suite, il les développera, il fera des explications, etc., dont en prose. Mais c'est là que se trouve l'œuvre principale de Jean de la Croix, qu'il a trouvé dans le Dénuement et la Solitude. Bon, ensuite, il est libéré, ou du moins il se libère, il s'évade, et il continue sa fondation de Carmes.
Et de réformateur.
Et de réformateur. Oui. Il construit, hein, c'est pas qu'un intellectuel, c'est un homme qui a construit des couvents, seul ou avec Thérèse Avila, même de ses mains qui participaient. Et il meurt en 1591, du côté de Ségovie. Voilà. Et en 1580, le pape signe le décret de séparation de l'ordre des Carmes et crée celui des Carmes des Chaux.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc la réforme est accomplie.
Oui, c'est allé assez rapidement d'ailleurs,
oui.
Finalement. Il en a souffert, mais c'est allé assez rapidement. Alors en 1575, il a une vision, Saint Jean de la Croix,
et
il a une vision du Christ en croix. Qu'il représente vu d'en haut.
Vu d'en haut et de profil.
Et de profil.
Alors qu'on représente toujours le Christ de face, la croix, etc. Et lui, c'est en effet une vision originale, quoi, puisque c'est de profil et c'est vu d'en haut.
Voilà. Alors, chers auditeurs, vous devez pouvoir le retrouver sur Internet.
Tout à fait, oui.
C'est dans un espace ovale, presque rond, sur un fond jaune. Vous avez donc ce dessin, ce croquis de Saint Jean de la Croix, réalisé en 1575 d'après cette vision du Christ en croix. Et donc, Salvador Dali a réinterprété ce Christ de Saint Jean de la Croix. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, Anne-Marie.
Voilà. Et alors, Dali dit avoir eu aussi une vision.
Oui,
il devait peindre le Christ. Il a vu en effet le Christ dans le ciel, enfin une grande croix dans le ciel. Il a au-dessus de Portiliga,
de Portligat,
là où il habitait, c'était là, non?
Oui, à côté de Figueras.
Voilà. Et il a entendu des voix qui lui ont dit: Dali, tu dois peindre le Christ.
Voilà. Alors voilà comment il le raconte. Pour moi,
ce serait à voir, hein,
oui,
ça.
Pour moi, ce tableau devait être exécuté comme une conséquence d'un état d'extase. La première fois que je vis ce dessin, donc de Saint Jean de la Croix, il m'impressionna de telle façon que plus tard, en Californie, je vis le Christ en rêve dans la même position, mais dans le paysage de Portligat, et j'entendis des voix qui me disaient: Dali, tu dois peindre ce Christ. Voilà.
Et donc nous avons ce tableau excessivement spectaculaire, très grand, hein, 2 mètres quand même de haut, hein, sur 1 mètre. Et donc on a le Christ vu d'en haut, en contre-plongée. On a dans le ciel une immense croix. Un Christ dans une position de plongeur.
Oui.
Carrément, on voit pas
les bras en arrière.
Les bras en arrière, la
collée
tête
à la croix.
Voilà, collée à la croix et la tête en avant.
Détachée. Voilà.
Voilà, on ne voit que de... la chevelure, hein, la chevelure,
le torse détaché de la croix.
Voilà,
enfin,
exactement. Voilà. Et ce torse très, très musculeux. Il voulait faire quelque chose de beau. Il voulait un Christ beau en réaction avec tous les Christs espagnols qui sont la plupart du temps couverts de sang, la bouche ouverte. Bon,
douloureux
et un petit peu impressionnant, pour ne pas dire autre chose. Bon. Donc, lui, il dit: Dieu est beau, le Christ doit être beau. Voilà. Et donc, il a pris comme modèle un cascadeur hollywoodien. Voilà. Donc, il ne risquait pas de se tromper. Et c'est vrai que ce Christ est magnifique. Et surtout, il n'est pas attaché à la croix. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de sang, il n'y a rien.
Oui, les clous, on croit en voir un dans la main gauche.
Mais c'est que des ombres.
Mais c'est une ombre, c'est l'ombre du pouce. C'est excessivement bien fait.
Et oui,
Dali
aussi...
était un excellent dessinateur.
Ah oui, il était remarquable, c'est un artiste de génie. Il y a aussi l'ombre du bras là, sur la croix. Et donc là, il est au-dessus, le fond est très sombre, en dessous il y a des nuages et toute la lumière est sur le Christ,
hein,
qui est profondément éclairé, les nuages aussi en dessous et... tout à fait au bord du tableau, donc le port
en bas,
voilà,
oui, la mer,
un paysage très calme, d'un bleu profond.
Oui, avec quelques montagnes au fond. Et puis...
animé.
Des pêcheurs.
Des pêcheurs.
Une barque.
Une barque et des pêcheurs. Hein. Donc, le Christ plonge, en, pour moi, il plonge en l'humanité.
Et oui.
Il plonge dans l'humanité.
Oui, parce qu'il baisse la tête, on ne voit pas son visage, on ne voit que le haut de la tête, et il se penche vers la terre. Sur cette croix suspendue.
Pendue dans le ciel.
Dans l'air.
Dans l'air. Dans la double...
Et dans la nuit. Dans la nuit, mais lui est éclairé.
La double nature, hein, finalement.
Oui.
La divinité, puisque... Oui. Et en même temps, l'humanité.
Oui, je pense, chers auditeurs, que vous appréciez cette peinture. Parce que vraiment, c'est inspiré.
C'est inspiré, c'est une vision spectaculaire. Hein, comme c'est... Voilà, c'est le génie de Dali, quand même. Hein.
Oui.
Qui, sous ses airs bouffons, était quelqu'un de profond, je pense.
Absolument. Absolument. Mais on ne connaît que l'air qu'il voulait bien donner au public, c'est-à-dire un bouffon, comme vous dites. Hein, voilà.
Et si on en revient à Saint-Jean de la Croix, moi, j'aimerais lire un passage sur la prière. La prière est inséparable de la vie quotidienne. Efforcez-vous de vivre une oraison continuelle sans l'abandonner au milieu des exercices corporels. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous parliez ou que vous fassiez toute autre chose, entretenez constamment en vous le désir de Dieu.
Le désir de Dieu.
Et il dit aussi que la nuit obscure, c'est la montée vers la lumière. La nuit obscure, c'est la nuit de la foi, mais aussi de la montée vers la lumière. Et oui. Que on ne peut appréhender Dieu, qui est inconnaissable pour l'homme, pour l'esprit humain, que par la foi.
Mm-hmm. Et ce désir de Dieu sera repris par Sainte Thérèse de Lisieux.
Oui, qui, je crois, était une grande lectrice
De Saint-Jean de la Croix.
De Saint-Jean de la Croix. Et je pense aussi que le fameux, les paroles de Thérèse d'Avila, quand elle dit que n'ayez pas peur, que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie, Dieu seul suffit, ça doit beaucoup aussi à Saint-Jean de la Croix.
Oui, et oui, oui, oui. Mais ils étaient très, très liés.
Voilà, exactement. En fait. L'un a inspiré l'autre et ils ont fait une œuvre d'ailleurs très importante quoi, et monumentale pour l'Église.
On peut citer une autre phrase qui résume toute la vie de Saint Jean de la Croix aussi. Où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous obtiendrez de l'amour.
Et c'est très actuel tout ça. Hein. Alors ça a été écrit au XVIe siècle. Et voilà, et on rejoint la beauté mystique des vers de Saint Jean de la Croix par la beauté de la peinture de Salvador Dali.
Voilà.
Dieu est beauté.
Mais oui, mais bien sûr... dans tous les siècles, hein, voilà. Voilà, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cette petite évocation bien modeste de Saint Jean de la Croix. Mais merci beaucoup Anne-Marie de nous avoir aidé à cette
avec le plus grand plaisir
à ce partage de la vie de Saint Jean de la Croix, parce que c'était courageux de vous pencher là-dessus.
Oui, tout à fait. Et c'est comme vous dites, c'est très modeste. Hein.
Merci à Imanol pour l'assistance technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, donc pour votre écoute fidèle une fois de plus. Vous pouvez retrouver cette émission et beaucoup d'autres en podcast sur Radio Présence Cahors, rubrique Les Arts Sacrés. À la semaine prochaine. Au revoir Anne-Marie.
Au revoir Anne-Marie.
Au revoir à tous.
Au revoir à tous.
Art sacré, Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.